À Rencontre spirituelle aujourd'hui, nous allons commémorer les carmélites de Compiègne. Ce sont quelques carmélites, peu nombreuses, 16 en fait, qui habitaient ce Carmel de Compiègne qui a été fondé en 1641. Et en 1794, eh bien, on s'en est emparé, on les a conduites à Paris, puis elles ont été condamnées à mort et exécutées sur le champ. Ce sont des martyrs, quoi, de la Révolution française. Et leur histoire a fait boule de neige. D'abord, une des religieuses du Carmel était à l'extérieur par affaire, et puis elle n'est pas morte. Et alors, elle a pu réunir toutes sortes de documents. Elle a écrit l'histoire plusieurs années plus tard, d'après ses souvenirs et les témoignages. Et puis, au XXe siècle, Georges Bernanos en 1948, quelques mois avant sa mort, écrit en quelques mois à Tunis le dialogue des carmélites. Tout à fait d'après les documents qu'il avait, et puis il a un peu romancé l'histoire pour en faire une chose encore plus belle. Et c'est resté dans une malle. C'est l'année suivante qu'Albert Béguin, le fameux Albert Béguin dont il faudrait bien que je vous parle un jour, l'a retouché, l'a repris, et puis l'a fait publier aux éditions du Seuil, cette grande maison d'édition, Dialogue des Carmélites, en 1949. C'était refusé par le cinéma parce que c'était comme une pièce de théâtre. Mais en Allemagne, ça a été joué en 1951, puis à Paris, au Théâtre Héberto, en 1952. Ça a fait boule de neige. C'était une adaptation encore d'Albert Béguin. Et puis, finalement, c'est devenu ce film que vous avez probablement vu, pour la plupart d'entre vous, Dialogue des Carmélites, d'après le scénario du père Brugberger, un dominicain, mais aussi d'après la nouvelle de Gertrude von Lefort, car c'est Gertrude von Lefort, une Allemande convertie au catholicisme, qui avait d'abord écrit ce texte. Et je vous en dirai un extrait tout à l'heure. Et finalement, en 1957, il y a Francis Poulenc, ce grand compositeur français, qui a composé un opéra d'après le dialogue des Carmélites. Et puis en 1960, il y a eu un film, ce film que vous avez dû voir, c'est ça que vous avez dû voir, ce film fait en 1960, qui n'est pas tout à fait conforme au texte de Bernanos et à la vérité, mais enfin, c'est un beau film quand même, hein. Et ça fait donc 200 ans qu'on raconte l'histoire des Carmélites de Compiègne. Il y a eu donc eu cette œuvre dramatique célèbre de Bernanos, des adaptations, l'opéra de Poulenc et d'autres, des adaptations au cinéma. Tout ça, ça a perpétué la mémoire de ces bienheureuses Carmélites de Compiègne, car elles ont été béatifiées. Alors leur histoire, puis en partie pourrait-on dire leur légende un petit peu, mais il faut pas exagérer, c'est leur histoire, puis leur légende, en ont fait des exemples, des exemples du drame qui a été vécu lors de la Révolution par des catholiques, surtout au moment où il y a eu une offensive extrêmement violente qui ont été menées contre ceux qu'on appelle les pratiquants des anciens cultes. Ce sont les anciens cultes, c'est le culte catholique, évidemment. Et c'est des gens fanatiques, c'était une minorité de déchristianisateurs qui voulaient absolument que l'on chasse le christianisme. Ça existe dans notre société de façon plus subtile aujourd'hui. Et cette affaire tragique montre bien qu'il y avait en France, à ce moment-là, à la fin du XVIIIe siècle, au moment de la Révolution française, quoi, une espèce de divorce. Un divorce, vous savez, quand un divorce est exacerbé, il était exacerbé par des passions humaines puis politiques contradictoires. Mais aujourd'hui, après 200 ans, on comprend mieux la réalité puis le sens des faits. Et ce qui compte de toute façon, c'est le message spirituel qui est incarné par ces saintes femmes, ces 16 victimes innocentes, 16 carmélites, qui ont eu la tête tranchée, sans aucun motif en fait. Elles étaient parfaitement innocentes. Je vous ai dit que le Carmel de Compiègne a été fondé en 1641. Bien que Compiègne, c'est un peu au nord, est de Paris. C'est tout près de là où Jean Vanier a fondé son arche. L'arche de Trelibreuil, là. C'est pas loin de Compiègne. Et puis, il était au début, le Carmel, abrité par la reine Anne d'Autriche dans une aile du grand château royal de Compiègne, un grand château à Compiègne, en attendant la construction du couvent, là, qui... Le couvent des Carmélites a été inauguré seulement 7 ans plus tard, en 1648. Il était consacré à Notre-Dame de l'Annonciation. Et jusqu'à la Révolution, donc durant plus de 100 ans, les Carmélites ont eu des rapports avec la famille royale et avec la cour, qui séjournait fréquemment à Compiègne dans ce château, parce que la cour se déplaçait de château en château, comme vous savez, hein. Et le jeune Louis XIV, il a été élevé près des sœurs, il les a connues. Puis Madame de Maintenon, puis la reine Marie Leczinska, ont pris le couvent sous leur protection, on peut dire. Et puis elles ont doté même des religieuses. Vous savez, puis ça prenait une dot pour entrer, assez d'argent pour nourrir, habiller, etc., chauffer un peu là, ces religieuses. Ces religieuses étaient pauvres. Hein. Puis... ces reines-là, ou ces femmes-là, leur ont rendu visite assez souvent. En 1690, l'établissement donc du Carmel là, comptait 13 professes, une novice et 3 sœurs converses. Elles étaient âgées de 26 à 75 ans. Et la plupart étaient d'origine extérieure à la ville. Mais elles étaient de bonne famille en bonne partie. Je vous donne des exemples. C'est assez extraordinaire. Sœur Joséphine Marie de l'Incarnation, qui revient souvent sur Marie de l'Incarnation, on en parle beaucoup. Mais c'était pas n'importe qui, c'était Madame Philippe. Pourquoi Madame Philippe, on l'appelait comme ça? Parce qu'elle était fille naturelle du prince de Conti, elle était donc de sang royal. Et puis, il y avait Mère Thérèse de Saint-Augustin, Madame Lidoine, qui était prieure. Madame Lidoine, elle avait été dotée en 1773 par la dauphine Marie-Antoinette, qui est devenue la reine Marie-Antoinette. Ordre austère, donc, que le Carmel, un ordre fermé, mais fidèle aux traditions. Et ce Carmel de Compiègne était réputé pour sa dévotion, sa bonne entente, sa charité. C'était un bon Carmel. Ce Carmel jouissait en 1690 d'un revenu annuel net d'environ 5000 livres. C'est un chiffre qui est pas négligeable, mais pas exorbitant. Donc, le 5 août 1590, en application de la nouvelle législation, l'administration du district de Compiègne dresse l'inventaire des biens du couvent. On interroge les religieuses sur leurs intentions. Puis, comme toutes leurs consoeurs, des établissements féminins de Compiègne, il y avait d'autres religieuses, là. Mais les carmélites déclarent qu'elles veulent simplement vivre et mourir comme elles disent, dans leur sainte maison. Y compris la jeune novice qui est sœur Constance, qui n'avait pas encore émis ses vœux. Les carmélites demeurent paisiblement en communauté. Elles bénéficient de la sollicitude même des autorités. On est en pleine révolution. Elles ne sont pas inquiétées par une quelconque manifestation d'hostilité. Mais le 11 février 1791, donc l'année suivante, quelques mois plus tard, l'administration préside à l'élection d'une prieure, c'est Madame Lidoine, et d'une économe, Madame de Croissy. Alors, elles sont pas assujetties au serment de la constitution civile du clergé. Ça ne concerne que les séculiers, ça. Les prêtres séculiers qui sont devenus des fonctionnaires publics. Elles réclament, puis elles obtiennent d'ailleurs des pensions que leur accorde la loi. En août 1791, quelques mois plus tard, comme vous voyez, elles reçoivent 480 livres pour chacune des 14 professes, puis 240 livres, c'est de l'argent, les livres, hein, pour les 3 converses. Ça fait un total de 7 425 livres, à peu près, de pension annuelle pour l'ensemble. Et c'est sûr que les carmélites de Compiègne résistent à la nouvelle organisation de l'Église mise en place par la Révolution, hein. Elles acceptent le point de vue de leur directeur de conscience, qui est un ex-jésuite, qui s'appelle Pierre-Edmond Carlet, qui va être exilé, lui, en novembre de l'année suivante, en 1792. comme agitateur. Agitateur réfractaire à la Révolution. D'ailleurs, dans son récit, je vous ai dit qu'il y avait une sœur qui a survécu. Dans son récit, paru en 1836, c'est longtemps après la Révolution, voyez-vous, c'est 42 ans après l'assassinat de ses sœurs, mais sœur Marie de l'Incarnation, dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, qui ce nom qui revient souvent, eh bien, c'est la seule carmélite rescapée de 1694. Elle situe aux alentours de Pâques un espèce de songe prémonitoire, de martyr, qu'aurait fait une religieuse. Bon, c'est une histoire. La communauté tout entière aurait alors juré, dit-on, de faire un acte de consécration par lequel, imaginez, elle s'offrirait en holocauste pour apaiser la colère de Dieu, comme si Dieu avait besoin de ça. Lui qui ne veut plus de sacrifice, c'est même dit dans l'Ancien Testament. Et obtenir que cette paix divine soit rendue à l'Église et à l'État. On voit le genre de spiritualité assez terrible qui tient beaucoup de l'Ancien Testament et qui pouvait animer certaines sœurs. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, déjà, Dieu dit qu'il ne veut pas qu'on verse le sang. Il arrête même Abraham au début. Il ne veut pas qu'il tue son fils. Il ne veut pas de sacrifices humains. Il ne veut pas d'animaux non plus. Cette version postérieure, c'est très développée dans la pièce de Bernanos, le dialogue des Carmélites. C'est toujours cette spiritualité qui règne un peu. Hein. Et après la chute de la monarchie, quand le roi perd son trône, on fait fermer les derniers couvents par un décret en 1792, le 18 août, puis les Carmélites de Compiègne doivent quitter leur Carmel le mois suivant, le 12 septembre. Puis elles acceptent de prêter ce qu'on appelle le serment liberté-égalité auquel sont assujettis les fonctionnaires puis les pensionnés de l'État puisqu'elles ont une pension. C'est ce second serment qui n'a rien à voir avec celui de 1790 qu'elles auraient rétracté après leur arrestation en 1794. Et les autorités locales à Compiègne leur conseillent la plus grande prudence et les laissent s'installer dans trois maisons contiguës près de l'église Saint-Antoine où elle mène, sans être inquiétée, une vie communautaire plutôt discrète, mais va arriver le drame que je vais vous expliquer. Alors, nous arrivons au drame. Le drame qui se déroule tout d'abord au printemps 1794. La situation du culte catholique, maintenue sans trop de difficultés à Compiègne dans le cadre de l'Église dite constitutionnelle, mais ça se dégrade vraiment qu'à l'automne 1793, donc quelques mois avant le grand drame, c'est quand, sous des impulsions avant tout extérieures, ce qu'on appelle la société populaire, puis les autorités locales là-bas, à Compiègne, lancent une offensive brutale contre la pratique catholique. Il y a un déchaînement de la part de quelques révolutionnaires. Alors on ferme des églises qui sont reconverties au culte patriotique de la raison, la déesse raison. Vous avez probablement déjà entendu parler de ça. Hein? Puis il y a l'abjuration forcée des prêtres. On les oblige, sous peine de mort, à abjurer. Il y en a qui sont martyrs, mais d'autres cèdent dans l'espoir de pouvoir s'en sauver pour pouvoir continuer à donner les sacrements en cachette. Ils ont été d'un grand courage, de nombreux prêtres. Hein? Puis il y a l'iconoclasme anti-religieux, on brise des tas de statues et d'objets, de reliquaires, et des vitraux, c'est terrible. On associe le catholicisme à l'ancien régime des rois, le régime absolutiste et féodal des rois puis des nobles, dont il était un peu question hier dans mon émission sur Saint-Louis de Gonzague. Et le comité révolutionnaire, donc de Compiègne, limite quand même la répression du clergé à un internement préventif de quelques prêtres qui sont suspectés, dit-on, d'aristocratie. Ils auraient des noms à particules. Et on n'inquiète pas vraiment les personnes pour simple opinion religieuse. On n'est pas trop sévère. Ainsi, on ne donne aucune suite à des gens qui crient ici et là, qui stigmatisent l'agitation fanatique et aristocratique. Vous savez, il y a toujours des têtes fortes. Et puis, des gens qui attaquent les religieuses, qui sont restées de fait en communauté. On parle contre elles, on voudrait Elle soit peut-être guillotinée, ce sont les visitandines, les carmélites, les bernardines de Monchy, etc. C'est en réalité un malheureux concours de circonstances quand on considère ça près de 100 ans. Là. Des circonstances locales et nationales aussi, qui vont être fatales aux carmélites. C'était un peu obscurci, ça, par les versions peut-être un peu trop pieuses qu'on a données de tout ce drame. Et l'affaire, aujourd'hui, peut être reconstituée pour l'essentiel grâce aux archives. Hein? Je veux pas détruire l'œuvre de Bernanos, de Poulenc et tout ça, pas du tout. Je voudrais qu'on aille au cœur des choses. Et c'est beaucoup plus près du sacrifice du Christ qui dit « Pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Les religieuses, elles entretenaient une correspondance, il faut avouer, imprudente, avec l'extérieur, où s'exprimait sans détour leur hostilité à la Révolution. Et ces échanges, dont les traces écrites découvertes lors de la perquisition de juin 1794, ça va servir, ça, à étayer la thèse du complot royaliste et fanatique de ces carmélites. Ça n'échappe pas à la vigilance du directeur de la Poste, ce Chambon qui est membre du comité révolutionnaire, mais on peut dire que l'arrestation des carmélites s'inscrit plutôt dans, disons, des manœuvres politiques qui minent sourdement le gouvernement révolutionnaire au printemps 1794. D'accord, c'est un mouvement révolutionnaire, c'est un gouvernement révolutionnaire, mais qui n'est pas aussi cruel qu'on peut le penser. Il a été cruel parce que des minorités ont été stupides. En avril 1794, donc, l'agent national du district, un dénommé Bertrand, s'est attiré les foudres du comité de salut public à propos de ses dénonciations vagues contre ce qu'il appelle le retour du fanatisme religieux. Les révolutionnaires de l'endroit éprouvent des difficultés à reconvertir ce fameux culte de la déesse raison auquel ils avaient donné un contenu athée. Ils veulent le reconvertir en un culte de l'être suprême parce qu'ils croient en Dieu. Et en essayant de promouvoir ce culte à Dieu, Robespierre, qui était croyant dans un sens, s'efforce de surmonter les troubles très graves, les divisions qui sont suscitées par toute cette guerre antireligieuse qui court ici et là, et puis qu'il a toujours désapprouvé, lui, Robespierre, saviez-vous ça? Or, ses adversaires politiques au sein même du gouvernement se sert de ses positions religieuses, ou vaguement religieuses, pour mener contre lui une campagne sournoise, puis il va être tué à un moment donné, vous savez ça. L'ordre de perquisition chez les religieuses de Compiègne, les différentes religieuses, ça émane de cette instance des fanatiques. L'arrestation des carmélites est donc motivée par la découverte d'écrits compromettants. Quels sont les écrits compromettants, bien sûr, dont je vous ai parlé, mais il y a aussi un portrait de Louis XVI, du roi Louis XVI, qui a perdu son trône. Il y a des images du Sacré-Cœur. Qu'est-ce que ça peut faire, ça? Ben, c'est que c'était le signe de ralliement des Vendéens qui vivent à l'Ouest-la-France, près de la Bretagne, et qui sont très contre la Révolution. Ils ont été d'un courage incroyable, les Vendéens. Puis il y a une correspondance explicitement favorable aux royalistes puis aux prêtres réfractaires. Alors, cette correspondance-là leur joue de mauvais tours. Et les carmélites sont donc enfermés dans l'ancienne maison des visitandines avec des religieuses anglaises de Cambrai qui sont internées à Compiègne. Là, le comité de l'endroit là, envoie l'ensemble du dossier au comité central, la Sûreté générale à Paris. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, à Paris, on ordonne, le 12 juillet, le transfert des 16 religieuses pour comparaître devant le grand tribunal révolutionnaire de Paris le 17 juillet. Et là, comme on entasserait des bestiaux, les pauvres carmélites sont chargées dans des charrettes. Elles ont les mains enchaînées derrière le dos. Le voyage dure 3 jours, imaginez, sous un soleil brûlant. Elles n'ont aucune nourriture. Arrivées à la conciergerie à Paris, l'une, qui est très âgée, ne parvient pas à descendre. Elle est jetée à terre. Elle est relevée, ensanglantée, puis elle dit avec douceur, et ça c'est très important, écoutez bien ce que dit cette vieille sœur, « Je vous remercie de ne pas m'avoir tuée, car j'aurais manqué le bonheur du martyr. » C'est ça le sens de ce martyr de ces sœurs. C'est toujours cet amour, ce désir de mourir comme le Christ. Et le pardon. Elles sont donc écrouées, les sœurs carmélites, à la prison. Et chose surprenante, la mère prieure, qui est noble, compose sur l'air de la Marseillaise, qui est un nouveau chant révolutionnaire. Elle compose, elle, des paroles, un chant de combat, qui montre bien l'élan de son âme vers le bonheur éternel. Et les pauvres victimes, là, elles deviennent très courageuses en chantant cet air, la Marseillaise, avec des paroles religieuses. Et cette prière, Madame Lédouane, a reçu, comme je vous ai dit, sa dot de la dauphine Marie-Antoinette. Elle a 52 ans. Jusqu'à l'instant de sa mort, elle ne cessera pas d'encourager ses filles groupées autour d'elle. Voici les noms de ces carmélites. Il y a Marianne Brideau, qui est joyeuse devant le martyr. Marianne Piécourt, 80 ans, qui va adresser au bourreau un pardon tout doux, tout doux. Marie-Claude Brard, attentive à rester humble et simple devant la mort. Il y a sœur Anne-Marie Touret aussi, qui est effrayée à la pensée du martyr, mais elle va trouver une force suprême dans l'amour de Jésus. Il y a sœur Marie-Françoise de Croissy, dont je vous ai parlé, qui est une écrivaine. Elle chante dans un poème son désir de verser son sang par amour pour le Christ. Il y a sœur Marianne Anisset, et puis sœur Marie-Gabrielle Trézel, puis sœur Rose Chrétien, qui a porté au cloître tout un passé de douleur. Elle avait épousé son cousin Chrétien de la Neuville, et toute jeune, elle est devenue veuve. Et dans sa douleur, elle a presque perdu la raison, elle n'a plus voulu rien savoir de la religion. Elle s'est enfermée dans une chambre tendue de noir, et quelques années plus tard, son oncle l'a ramenée à Dieu. Son âme s'est transformée si profondément, imaginez qu'elle est entrée au Carmel. Et son caractère, plutôt altier puis difficile, est devenu humble et serviable. Et les sœurs l'admiraient. À 58 ans, elle remporte sa plus grande victoire en dominant sa peur, la terreur qu'elle avait du supplice. Puis elle fait avec générosité le don de toute sa vie à Dieu. Puis il y a sœur Anne Pléras, qui est très belle, elle. Très, très belle. Elle était ravissante. Elle est entrée chez les sœurs Saint-Vincent de Paul au début, mais sa beauté n'attirait trop les regards. Elle vivait dans le monde, en costume de sœur, avec cette belle coiffe fantastique blanche, là. Alors, elle s'est cachée au Carmel, où elle s'est retrouvée encore sœur de la charité, dans un certain sens, puisqu'elle était dévouée aux malades. Son nom, en religion, d'ailleurs, c'était Henriette de la Providence. Puis il y a sœur Angélique Roussel, aussi, qui avait un cœur ardent. Elle est toujours malade. Et son martyre va marquer la fin de ses souffrances. Sœur Marie Dufour, aussi, qui était si parfaite de tout temps, même avant qu'elle entre, qu'elle n'a fait que garder au couvent les vertus qui l'avaient fait tellement admirer dans le monde. Tout le monde l'aimait. La sœur Élisabeth Verlot, qui était douce et joyeuse et qui meurt à 30 ans. Puis en pleine jeunesse aussi, sœur Marie-Jeanne Meunier, qui a lutté si durement avec sa famille pour entrer au couvent. Puis il y a deux sœurs converses, Catherine et Thérèse Soiron, et puis la première avait supplié en pleurant la mère prieure de ne pas la quitter, de lui permettre de mourir comme elle, pour le Christ. Thérèse, elle, remarquablement belle, avait été conviée par la princesse de Lamballe à faire partie de sa suite. Je reviens donc aux carmélites de Compiègne. Je vous ai dit que sœur Thérèse Soiron, était remarquablement belle. Et la princesse de Lamballe avait les yeux dessus. Elle avait une conduite plus ou moins étrange, dit-on, avec la reine Marie-Antoinette. Bon, ce sont des ragots, probablement. Enfin, Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan, princesse de Lamballe, a été exécutée en 1792. Et puis, elle est morte avant les carmélites, comme vous voyez. Elle a eu la tête tranchée, c'est elle dont la tête était portée au bout d'un piquet pour la montrer à Marie-Antoinette quand Marie-Antoinette était emprisonnée à la Conciergerie. C'est terrible, cette scène, dans le film sur la Révolution française. Elle était donc une amie fidèle de Marie-Antoinette. Elle était née à Turin. Elle a eu la tête tranchée à 43 ans. Elle disait à cette belle religieuse, avant qu'elle soit religieuse, j'imagine, « Soyez certaine, disait la princesse, que je vous aimerai bien et je vous rendrai la vie aussi heureuse que possible. » Et Thérèse Soiron a répondu à son Altesse, que même si son Altesse plutôt lui offrirait la couronne de France, elle n'en voudrait pas. Elle dit à la princesse de Lamballe, « Je préfère rester à la place où Dieu m'a mise, où je trouve des moyens de salut, que je ne trouverai pas ailleurs des moyens de salut de cette sorte. » Alors, le procès des 16 carmélites se situe en pleine grande terreur. En juin 1794, où le tribunal révolutionnaire de Paris instruit toute une multitude de procès expéditifs, ils y vont à toute vapeur. Ils font 2000 victimes. Les prévenus de Compiègne, qui sont nombreux, font partie d'une fournée de 34 personnes, quoi. Les carmélites sont 16. Ces personnes-là sont jugées hâtivement, sans témoins. Il y a des gens de toutes sortes là-dedans. Et l'acte accusait les carmélites d'avoir formé des conciliabules, dit-on dans le texte, de contre-révolution et d'avoir dans le cœur le désir de voir le peuple remis au fer de ses tyrans et dans l'esclavage des prêtres sanguinaires. L'esclavage des prêtres sanguinaires, c'est-tu insensé comme les révolutionnaires parfois peuvent devenir complètement idiots? On les accusait d'avoir continué à vivre soumises à leurs règles et à leurs supérieurs. Évidemment, c'était défendu. On ajoute un grief de fanatisme. Alors, sœur Marie-Henriette Pelleras demande qu'on précise ce grief de fanatisme. Alors, on lui répond, « J'entends votre attachement à des croyances puériles et à de sottes pratiques de religion. » C'est ça que lui dit l'accusateur. Alors, la sœur se retourne vers sa supérieure, sa prieure, puis les sœurs, puis elle dit, « Ma mère et mes sœurs, félicitons-nous. Nous allons mourir pour Dieu. Nous allons mourir pour Dieu en homme, en aimant Dieu. » Alors, la mère Thérèse de Saint-Augustin, une prieure, parle au nom de toutes, et elle veut prendre sur elle toutes les inculpations. « S'il vous faut une victime, c'est moi qu'il faut frapper. » Alors, sur les 34 accusés de la séance, 31 sont condamnés à mort, dont 17 compiègnois. La sentence est exécutoire. Dans les 24 heures, hein? C'est vite fait. Au cours de cette parodie de procès, les carmélites, et c'est ça qu'il faut retenir, montrent une dignité puis un courage qui impressionne tout le monde, voilà. À la conciergerie, la prison, comme à Compiègne, d'où elles ont été transportées pendant 3 jours, les 16 carmélites continuent à observer leurs règles. Un témoin digne de foi qui s'appelle Denis Blot, B-L-O-T, déclare qu'on les entendait toutes les nuits à 2 heures du matin récitant leur office. Le 16 juillet, la veille de leur mort, elles célèbrent la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel avec un tel enthousiasme qu'au dire d'un détenu, la veille de leur mort paraissait un grand jour de fête pour elles. Et selon le témoignage, qui est venu plus tard, d'un employé de la prison qui a été recueilli par Sœur Marie de l'Incarnation, celle qui a survécu, on ne saurait croire l'impression de respect que commandait le dévouement de ces généreuses victimes. Toutes soupiraient après le moment de leur sacrifice. Toutes s'exhortaient à rester fermes et généreuses dans le dernier combat. Elles avaient l'air d'aller à leurs noces. C'est ce qu'il dit à propos de leur dernier moment. Quand la charrette, vous savez, la charrette, le bruit sinistre de cette charrette, les a emportés vêtus de leur manteau blanc et chantant des cantiques jusqu'à la place du trône. C'est là qu'elles ont été exécutées. Ça s'appelle maintenant la place de la nation, où se dressait l'échafaud. On rapporte que la foule, impressionnée par leur sérénité, les accueillit en silence, tandis qu'elle gravissait les marches au chant du Veni Creator. Vous vous souvenez de ce chant, hein? Veni Creator Spiritus, Mentes Tuorum Visita. Venez, Esprit Créateur, visitez les âmes de vos fidèles. Remplissez de la grâce d'en haut les cœurs que vous avez créés. Vous qu'on nomme le Consolateur, le don du Dieu Très-Haut, source vive, feu, charité, onction spirituelle. Quel beau chant, hein? C'est vous l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la droite du Père. C'est vous que le Père a promis et qui donnez la parole à nos lèvres. Éclairez nos esprits de votre lumière, répandez votre amour dans nos cœurs. Soutenez la faiblesse de nos corps par votre indéfectible vigueur. Puissions-nous par vous connaître le Père, donnez-nous de connaître le Fils et faites-nous toujours reconnaître en vous-même l'esprit du Père et du Fils. C'est beau, le Vini Créateur, mais elles ont chanté ça. Et la Mère Thérèse de Saint-Augustin, donc la supérieure, obtient d'être exécutée la dernière. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tient une petite statue de la Sainte Vierge. On l'a retrouvée, la statue. Oh, elle est toute usée. Que chacune de ses sœurs, de ses compagnes, baise avant de mourir, en chantant le Laudate. Vous vous souvenez de ça? Laudate Dominum omnes gentes. On chantait ça autrefois quand on était jeune. Louez le Seigneur, toutes les nations. Rendez-lui gloire, tous les peuples. Car puissante sur nous a été sa bonté, et la fidélité du Seigneur dure à jamais. Et leurs corps vont ensuite être inhumés dans la grande fosse commune, creusée près du cimetière du couvent de Picpus, où reposent tant d'autres victimes. Alors, Sœur Marie de l'Incarnation, qui avait quitté la communauté pour aller régler des affaires à Paris, elle est donc la seule à avoir échappé à l'arrestation, puis elle entreprend de rédiger des témoignages, comme je vous ai dit au début de l'émission, sur les derniers moments de ses compagnes. Et le récit qu'elle rédige à la demande de son supérieur, l'abbé de Villecourt, futur cardinal, paraît en 1836. Elle mêle ses souvenirs personnels, puis les témoignages, et s'est nourrie évidemment de préoccupations de l'Église d'alors, la défense de l'Église. Ce texte est émouvant quand même, il va forger l'histoire des Carmélites. Il va servir de base à toute cette abondante production hagiographique qui va suivre, et qui n'a pas toujours fait preuve d'esprit critique historique. Bon, ça arrive, Il faut avouer que c'est pas dénué d'intentions polémiques, son texte. Mais le martyr des Carmélites de Compiègne, comme le massacre, vous savez, du 2 septembre 1692, quand André Grasset, un Montréalais, a été assassiné à Paris, là. Bien, ça a été un peu exploité de la même façon pour légitimer le catholicisme ultramontain et faire le procès de la Révolution française de façon parfois exagérée. Parce qu'il y avait des bons points quand même dans la Révolution française, qu'on dit ce qu'on voudra. Je ne veux pas scandaliser du monde en disant ça, il y a tout de même une limite. Et tandis que le souvenir des 16 victimes est transmis en Angleterre par les bénédictines anglaises de Cambrai, qui les ont côtoyées au moment de leur arrestation à Compiègne, la réinstallation d'un Carmel dans la ville en 1867, donc, 75 ans plus tard, ça contribue à entretenir la mémoire locale du grand martyr de ces Carmélites. Puis, il y a l'instauration d'un rituel commémoratif. Il y a un effort de publication qui émane du clergé puis des notables, les gens souvent un peu trop de droite, de la société historique de Compiègne. Alors, le conflit s'intensifie sous la Troisième République avec le regain des luttes entre l'Église puis la République. La République qui est animée par bien des gens qui détestent le christianisme. Et ça va aboutir aux lois laïques des années 1880, où l'on chasse les communautés, puis à la séparation de 1905, où c'est épouvantable, c'est une catastrophe, les communautés doivent toutes partir de France, presque toutes, sauf les sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, à cause de leur grand costume qui inspire trop d'amour de la part de la plus grande partie de la population. À la même époque, les anticléricaux forgent le culte du chevalier de la Barre. C'est terrible, cette histoire. Font ça à Abbeville. Le chevalier de la Barre était tout jeune, il avait 22 ans, il était victime de l'intolérance de l'Église au 18e siècle. Voltaire en a fait un de ses chevaux de bataille contre, dit-il, le fanatisme des catholiques. Ce chevalier, Jean-François Lefebvre de la Barre, est mort en 1666 dans des circonstances abominables. Il avait été accusé d'avoir mutilé un crucifix, puis il a été torturé et décapité. C'est dans ce climat d'intolérance mutuelle, donc, qu'il faut situer la façon qu'on a instruit le procès de béatification à l'initiative de l'épiscopat français et la cause des Carmélites introduite sous le pape Léon XIII le 16 décembre 1902 a abouti au décret de son successeur Saint-Pie-X le 11 juin 1905 qui a proclamé l'authenticité, puis a bien raison, du martyr en donnant lieu à des cérémonies mouvantes de béatification qui a eu lieu en 1906 le 27 mai. Et puis, ça a eu un grand retentissement dans le monde religieux. Mais ça a paru comme une espèce de vengeance, on peut dire, de l'Église à l'encontre des républicains, au moment de la séparation de l'Église et de l'État. C'est pas nécessairement ça, mais enfin. On ne retient en effet du drame de 1794 que les inculpations religieuses, mais en fait, les carmélites, sont des martyrs de leur foi, c'est sûr, mais elles avaient fait des choses aussi contre la Révolution, et puis il fallait bien s'attendre à ce qu'il leur arrive quelque chose. Alors, elles ont été victimes, les carmélites de Compiègne, on pourrait dire, non pas de la Révolution en général, mais vraiment d'éléments intolérants égarés, qui en ont faussement incarné les idéaux de la Révolution. Ces sœurs, là, animées d'une foi profonde, qui a été puisée dans la tradition de leur ordre extraordinaire qu'est le Carmel, puis leur foi qui a été épanouie à l'occasion de leur tragique destinée, là, ça apporte une grande leçon de foi, puis en même temps de pardon. Elles livrent un message d'amour puis d'apaisement qui constitue au fond le cœur même du vrai christianisme. Et c'est ça qu'il faut retenir des carmélites de Compiègne. Il ne faut pas être enragé contre la Révolution française, il faut être plein d'amour. Aimons nos ennemis. Puis le Christ qui l'a dit. La rancœur mêlée de colère n'a rien à voir avec l'exemple qu'elles nous ont donné. Dans un beau texte qui est à l'origine de tout ça, au fond, dans les temps modernes, c'est le texte de Gertrude von Lefort. Gertrude von Lefort, descendante de huguenots français immigrés, est née en Westphalie, en Allemagne. Elle a, à Heidelberg et puis à Berlin, été l'élève du grand philosophe protestant Ernst Troeltscht. Puis, elle s'est convertie au catholicisme. Alors, Gertrude von Lefort, qui est tenue en Allemagne pour une grande romancière catholique, a une œuvre éditée qui est abondante. Très fameuse, Gertrude von Lefort. J'espère que vous en avez déjà lu. Ça compte des recueils de poèmes, un essai, un volume d'articles, des romans, de nombreuses nouvelles. On connaît en français beaucoup de choses d'elle, hein? Les hymnes à l'Église, la femme éternelle. Mon Dieu, cet don est élu, c'est la femme éternelle. Puis, des romans comme Le Pape du Ghetto, etc., etc. Et puis, La Dernière à l'échafaud. C'est ça que Georges Bernanos a utilisé pour écrire son livre. Une nouvelle, ça, La Dernière à l'échafaud. C'est un petit roman, si vous voulez. Et puis, ça se termine ainsi. Je vous le lis, c'est très beau. C'est de Gertrude von Lefort. Ça date de 1930 à peu près, ça, si je me souviens bien. Les carmélites débouchèrent sur la place de la Révolution en chantant. On entendait déjà de loin leur psalmodie. À travers les cris de la populace, le chant se frayait un chemin étrangement net. Ou bien étaient-ce les éclats de cette foule cruelle qui s'était tue à la vue des victimes qu'on leur livrait? Je distinguais très clairement les dernières paroles du Salve Regina. C'est sous forme d'une lettre. Hein. Gertrude von Lefort, c'est comme si elle écrivait une lettre à quelqu'un. Alors ici, elle dit, vous savez qu'on le chante au moment où une religieuse se meurt, le Salve Regina. Et elle continue, et aussitôt après, les premiers vers du Veni Creator. Il y avait dans leur chant quelque chose de lumineux et d'aimable, de tendre, mais en même temps de très ferme et tranquille. Jamais je n'aurais cru qu'il pût jaillir des lèvres de créatures condamnées à mort. Je m'étais senti jusque-là très agité. À l'audition de ce chant, je devins étrangement calme. Creator Spiritus, Creator Spiritus, il me semblait constamment réentendre ces deux mots. C'était comme s'il jetait l'encre au fond de moi. Cependant, le chant poursuivait son cours, clair et plein. Les charrettes, à en juger d'après les voix, je ne pouvais rien voir, j'étais trop petite, avançaient très lentement. Sans doute, la foule refluait-elle à la tête du convoi. J'avais le sentiment qu'il mettrait encore du temps à venir, mais ce chant abolissait toute notion de durée, abolissait aussi l'espace. Il supprimait la vaste et sanglante place de la Révolution, abolissait la guillotine. Il abolissait Creator Spiritus, la vision du chaos. J'avais tout à coup, de nouveau, l'impression d'être parmi des hommes. Il me sembla que quelqu'un me disait à l'oreille, « La France ne boit pas seulement le sang de ses enfants, elle verse aussi son sang pour eux, son sang le plus noble, le plus pur. » Et je sursautais d'épouvante. Un silence de mort régnait en cet instant sur la place de la Révolution. Ma chère, même pendant l'exécution du roi, il n'y eut pas un tel silence. Alors elle continue. Le chant aussi semblait maintenant plus faible. Sans doute les charrettes s'étaient-elles éloignées. Peut-être étaient-elles déjà arrivées à destination. Mon cœur se mit à battre. Je pris conscience qu'une voix très claire manquait dans le cœur. Aussitôt après une autre encore, j'avais cru que l'exécution n'avait pas encore commencé. De fait, elle était presque achevée. Le chant n'était plus soutenu maintenant que par deux voix. L'espace d'un moment, elles flottèrent ainsi qu'un brillant arc-en-ciel au-dessus de la place. Puis, ce fut comme si l'un des côtés de l'arc s'éteignait tandis que l'autre continuait de luire encore. Mais déjà, à son tour, une autre voix ressaisissait la lueur expirante de la première. C'était une toute petite et fine voix d'enfant. J'avais l'illusion qu'elle ne venait point du haut de l'échafaud, mais qu'elle jaillissait des profondeurs de la foule, comme si la foule elle-même eût prononcé le répond. Ô merveilleuse illusion ! Au même instant, il se fit un violent remous à travers les rangs pressés. Devant moi, exactement comme en cette nuit de septembre, une brèche s'ouvrit, et je vis, cette fois aussi exactement comme alors, au milieu de la cohorte des horribles mégères, Blanche de la Force. Elle a donné ce nom à ce personnage imaginaire parce qu'elle s'appelle Gertrude von Lefort. Von Lefort, de la Force, Blanche de la Force. Son petit visage pâle, comprimé, surgit d'entre ceux qui l'environnaient. Elle s'en débarrassa comme d'un voile. Je reconnaissais chacun des traits de ce visage et pourtant je ne pouvais le reconnaître. Il était totalement dépouillé de frayeur. Elle chantait, de sa main ses frêles voix enfantines, sans le moindre tremblement, oh non, avec l'allégresse d'un petit oiseau. Elle chantait toute seule sur la vaste et sanglante et terrible place de la Révolution, menant jusqu'au bout le veni créateur de ses sœurs, Deo Patris et Gloria, et Filio, quia mortui surexit ac paraclito, in seculorum secula. Et j'entendis clairement la confession du Dieu en trois personnes. L'Amen, je ne l'entendis plus. Vous savez que les femmes en furie l'assommèrent sur place. Et alors, mon ami, l'arc-en-ciel au-dessus de la place de la Révolution était éteint. Et pourtant, j'eus ce sentiment. La Révolution touche à son terme. De fait, le régime de la terreur s'effondrait 10 jours plus tard. Ce beau texte de Gertrude von Lefort est évidemment romancé, mais c'est très beau, puis elle veut exprimer là-dedans son opposition elle-même au régime nazi naissant, qui est une horreur à ses yeux. Et elle fait une comparaison. Elle se voit dans cette petite Blanche de la Force, qui est devenue un personnage mythique admirable, très très beau. Seigneur, pour ton amour qui s'étend à tous les hommes, pour le salut que tu nous donnes en Jésus-Christ, pour ton esprit qui suscite dans l'Église le désir de proclamer par toute la terre cet amour qui nous sauve, pour la soif de justice, de fraternité et de paix qui grandit chez tous les peuples, pour tous ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui offrent leur service pour répondre à ton appel, pour cette prière d'espérance que tu fais naître en nous. Oui, nous te remercions, Seigneur.